On s'en va pas dans Josué tout de suite. Juste, on va s'introduire dans 1 Timothée chapitre 5. Parce que ça va avec le thème du mois de mai, qui est que Dieu révèle les secrets. Et on a un message aujourd'hui qu'on commence à considérer, mais ça va être en deux parties. Donc aujourd'hui, c'est la partie 1. Le Dieu qui révèle les péchés secrets. Et on va voir ça par une illustration dans le livre de Josué. On a lu ça ce matin. Mais je veux juste qu'on aille voir dans 2 Timothée chapitre 5 et les versets 24 et 25. 2 Timothée chapitre 5 et le verset 24. Peut-être que vous connaissez ces versets déjà. Ah, 1 Timothée! Ah, je suis d'un patate! Comment? Ouais, c'est ça. Ouais, non, j'avoue. J'étais vraiment dans le champ gauche. Good! Donc là, tout le monde est là, dans le même livre, là. 1 Timothée au chapitre 5, verset 24. Les péchés de certains hommes sont manifestes, même avant qu'on les juge. Tandis que chez d'autres, ils ne se découvrent que dans la suite. De même, les bonnes œuvres sont manifestes et celles qui ne le sont pas ne peuvent rester cachées. Seigneur, on te remercie de ce qu'on peut prendre un temps pour considérer ta parole vivante qui suscite la foi parce qu'elle nous amène toujours à considérer Jésus-Christ qui est révélé dans toutes les Écritures. Et Seigneur, on prie que tu sondes nos cœurs. Ces choses qui ne paraissent pas, mais qui sont dans nos cœurs, ces péchés, spécialement les deux qu'on va voir aujourd'hui, ces péchés racines, fondamentaux, Seigneur. Ouvre-nous les yeux, on a des cœurs trompeurs, on se voit vraiment pas aussi pire qu'on est. Mais Seigneur, toi, si tu nous ouvres les yeux, on va pouvoir non seulement voir qui on est, mais te voir toi, qui est plus grand. Toi qui nous dis que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Seigneur, on te prie maintenant parce que on peut rien faire sans toi. Et si tu ne nous enseignes pas, si tu ne convaincs pas, si tu ne fais pas ton œuvre, Seigneur, tout ceci serait en vain. Mais on te remercie que tu es vivant, que tu es au milieu de nous. Et Seigneur, on veut vraiment simplement, en ce moment, Seigneur, s'arrêter à tes pieds et regarder à toi, entendre ta voix. Merci, Seigneur, pour ta fidélité, ta bonté envers nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, c'est un verset d'introduction, deux versets d'introduction. Pourquoi? Parce que je veux prendre un temps d'arrêt, un temps pour méditer un peu, si vous voulez. Et je pense qu'on l'a peut-être déjà fait un peu dans les dernières semaines, mais un peu une rétrospective. D'habitude, on fait ça au mois de janvier, mais qu'est-ce qu'on a vécu depuis plus d'un an? Depuis mars 2020, vous savez, le Seigneur a pas mal, comme diraient les Anglais, il a pas mal brassé notre chaloupe. Il rocked our boat. Puis, je pense que c'est un temps bien désigné. Le thème du mois de mai, c'est Dieu révèle les secrets. Et je pense que, à travers tout ce qui est arrivé depuis le mois de mars 2020, Dieu a révélé beaucoup de choses sur lui-même, mais aussi sur les choses dans le plus profond de nos cœurs. Et ce que j'aimerais qu'on voit, Dieu révèle les péchés secrets. Et ceux que on va regarder aujourd'hui, ces deux péchés, moi je pense les plus fondamentaux de tous. D'abord, l'incrédulité. L'incrédulité, c'est ce qui empêche et ce qui bloque Dieu de faire son travail. Parce que le juste vivra par sa foi. Et si je marche pas par la foi, pas parce que Dieu n'est pas capable, mais il ne va pas le faire, parce que c'est des lois que lui-même a établies. Il agit dans la vie de ceux qui se confient en lui. Il y a un autre péché racine aussi qu'on va voir aujourd'hui, c'est, puis moi j'appelle ça, c'est les sœurs siamoises, là, l'incrédulité et l'orgueil. L'orgueil, c'est cette tendance, vous pourrez même dire cette obstination que nous avons dans notre nature humaine à vouloir faire le travail, vouloir faire nous-mêmes les choses. Mais pensez-y, c'est pas croire que Dieu peut faire infiniment mieux que nous autres. Ça, c'est l'orgueil, qui ne croit pas que Dieu fait bien mieux que nous autres. Donc, ça va être le sujet du message aujourd'hui et, Dieu voulant, la semaine prochaine aussi. Puis là, juste en introduction, je vais amener quatre vérités là, pour vous montrer un peu, mettre la table sur ce dont on va parler plus exactement. D'abord, je pense que Dieu nous révèle les secrets, Dieu nous révèle les péchés secrets pour qu'on s'en repente. L'heure est à la repentance et à retourner à Dieu. On ne fait pas juste se détourner du péché, on se retourne vers Dieu. Hein? C'est l'autre côté de la repentance. Et donc, se repentir et retourner à Dieu qui peut et qui veut travailler pour nous. Qu'on arrête d'essayer de faire ce que juste Dieu peut faire. Pourquoi? Parce qu'on s'est replié sur nous-mêmes dans notre autosuffisance charnelle. Et ainsi, on a mis de côté le surnaturel qui est rendu dans nos églises quasi une rareté. C'est banni presque. Il est grand temps de retourner à ce Dieu surnaturel qui peut faire infiniment au-delà de tout ce qu'on demande et même ce qu'on pense. Deuxième chose, en guise d'introduction, si on se tourne ainsi vers celui qui peut faire l'impossible, c'est pour nous soumettre à lui. Si on se tourne vers lui, c'est dans une attitude de soumission, d'humilité, pour que lui fasse ce qu'on a essayé pendant si longtemps de faire, mais que lui, enfin, puisse le faire. Et ça, c'est la fin de nos échecs. Et c'est le début de son succès, parce que tout ce qu'il fait, il le fait à merveille. Et c'est pour ça qu'il faut comprendre qu'on approche ces choses comme dans, ça dit dans 2 Corinthiens chapitre 10 au verset 4, « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Et ça, ce n'est pas des voix qui sont humaines. C'est des voix qui sont bien au-dessus de nos voix, des pensées qui sont bien au-dessus de nos pensées. Et même si ça peut paraître, parce qu'on va le voir dans Josué, je vais utiliser tourner dans Josué, pas tourner dans Josué, pendant que je vous donne l'introduction, on va voir. Ça peut paraître de la folie, ce que Dieu nous demande de faire, comme avec Josué. Mais j'aimerais vous rappeler ce que ça dit dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 25. La folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Autrement dit, ça a peu d'importance ce que les hommes peuvent en dire puis ce qu'ils peuvent en penser. Si Dieu le dit, c'est tout ce qui compte. Et on va revenir là-dessus, mais c'est un deuxième point sur lequel je veux attirer notre attention. Un troisième point en introduction sur lequel je veux attirer notre attention. Ce qui attire les perdus à Dieu, et ce qui attire les sauvés à la grâce de Dieu, à sa vie plus que suffisante, c'est l'œuvre de Dieu. C'est son témoignage, pas le nôtre. Hein, ça dit, Jésus a dit de lui-même, « Et quand moi, Jésus, le Fils de l'homme, j'aurai été élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. » Lorsque Dieu est élevé, il est mis de l'avant, il est central. Autant les perdus que les sauvés vont aller à lui. À lui, parce que c'est lui qui est élevé, c'est lui qu'ils vont voir. Et quand on voit lui, tout le reste n'a plus d'importance, parce qu'il est suprême. Mais le Saint-Esprit n'utilise pas nos œuvres et comment nous autres on veut s'élever. Parce que la Bible dit, quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie. Mais la sagesse est avec les humbles. L'ignominie, c'est l'idée de honte. C'est pas très attirant quand quelqu'un s'enfle d'orgueil. Au contraire, c'est repoussant. Donc, c'est pour ça qu'il faut élever Dieu et non pas nous-mêmes. Et une dernière chose en guise d'introduction. La foi qui porte le plus de fruits dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est celle qui croit, qui se confie en Dieu lorsqu'il n'y a rien pour l'encourager dans le monde visible, dans la logique humaine. Sauf la parole de Dieu. Dieu l'a dit, ça suffit. Ça, c'est la foi qui fait l'impossible. Pourquoi? Parce que ce n'est pas La foi, c'est pas une œuvre, c'est la confiance dans celui qui fait les œuvres, dans celui qui travaille. Donc, même si ça n'a aucun bon sens aux yeux des hommes, on fixe nos yeux sur l'invisible. Et justement, c'est un verset même que j'avais souligné que notre chère Élisabeth nous a cité tantôt. Ça dit « Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères, mais les invisibles sont éternelles. » 2 Corinthiens 4, 18. Donc tout ça, ça nous amène à un constat ce matin. Et c'est là que je termine mon introduction. Seule la foi exclusive en Dieu marche. Tu sais, on est dans un temps où est-ce que... Ben ça, c'est pas mal quelque chose... Je pense que Dieu a donné un bon coup de bord dans le pragmatisme chrétien. C'est-à-dire, en 2020, là, le pragmatisme a pris un méchant coup, puis c'est une bonne affaire. Parce que c'est nous qui prenons le coup, parce que c'est destructeur. Tu sais, ce qui marche, là, c'est ça l'idée. Ah, si, eux autres, ils font ça, ça marche, donc il faut le faire. Mais ça marche pour qui, puis ça marche pour quoi? C'est-à-dire, si c'est pas Dieu qui marche, ça marche pas. Alors, beau marcher pour les hommes, c'est de l'hommerie. Non, la foi en Dieu, ça marche dans le sens que ça va produire ce que Dieu veut. Et c'est la seule façon d'arriver à accomplir la volonté de Dieu qui est bonne, qui est agréable, qui est parfaite. Le juste vivra par la foi. Et ça, c'est quoi? C'est la dépendance à Dieu. Pas à la chair, pas au moyen de la chair, au raisonnement de la chair, mais à Dieu et à lui seul. Et pensez-y, c'est l'antidote à notre incrédulité et à l'orgueil qui essaye de faire, qui pense que ce que Dieu peut faire, c'est moins bon que ce que nous, on est capable de faire. Si j'ai la foi que Dieu peut faire infiniment au-delà de tout ce que je demande, ce que je pense, je vais me débarrasser de ce pragmatisme, de cette incrédulité orgueilleuse qui ne produit rien de bon. Et donc, notre réponse à ce que Dieu nous révèle sur lui-même, notre réponse à sa puissance, sa sagesse, c'est ça qui va supplanter nos efforts pitoyables d'essayer de faire ce que juste Dieu est capable de faire. Et pensez-y. Je pense qu'il y a quelque chose que Dieu nous révèle là-dessus, sur nous en tant que chrétiens, en tant qu'Église, qui est précieux parce que Dieu veut le remplacer. Dieu, quand il révèle quelque chose, parce qu'il veut nous montrer quelque chose d'encore mieux, et c'est lui-même. Et ça, c'est la victoire de la foi. Je vous cite 1 Jean chapitre 5, verset 4. « Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » Donc, on va avoir une illustration de ça dans Josué. Et là, vous êtes là, on commence avec le chapitre 5. On a déjà lu les versets, mais je veux les relire. Les versets 13, la fin du chapitre 5. On va avoir trois caractéristiques de la foi victorieuse. La foi victorieuse. D'abord, cette foi, on la voit dans les chapitres 13 à 15. Regardez bien. « Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et dit, « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis? » Il répondit, « Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. » Josué tomba le visage contre terre, adora et dit, « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? » Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, « Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Et Josué fit ainsi. La foi victorieuse, d'abord, on voit qu'elle adore. C'est une foi qui adore. La scène qu'on a ici, et je l'ai dit tantôt avant de lire, avant le temps de prière, c'est la plus importante du livre de Josué. Ce qu'on vient de dire là, c'est le point le plus important pour tout le livre. Oui, pour la conquête de Jéricho, mais bien au-delà. Pourquoi? Parce que c'est là que Josué s'abandonne complètement à Dieu. Dieu se révèle à lui et Josué se confie dans ce que Dieu lui a révélé de lui. Ça dit dans 1 Timothée chapitre 6, verset 12, Paul a dit à Timothée, « Combat le bon combat de la foi. » Saisis avec la vie éternelle à laquelle tu as été appelé, pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Combat le bon combat de la foi, c'est quoi ça? C'est le combat ou la lutte par rapport à arrêter d'essayer de faire et commencer à croire que Dieu peut faire. croire que Dieu peut faire, et veut faire, et peut faire. Et ça, en dépit de toute l'impossibilité qu'il peut y avoir dans ce que Dieu est en train de nous dire qu'il veut faire. OK? Ici, on a un excellent exemple. La ville la plus forte, la plus redoutable des murs, là, j'ai pas les dimensions, mais c'était incroyable, c'était vraiment la ville imprenable. C'était l'impossible. OK? Mais écoutez bien, Jésus a dit aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Puis il a dit ailleurs dans Luc 1, 37, car rien n'est impossible à Dieu. C'est ça que la foi victorieuse croit. Mais regardez bien. La foi croit que Dieu peut faire l'impossible. La question ici qu'on doit se poser, est-ce que je peux croire exactement ce que Dieu a dit? Dieu dit des choses dans sa parole, est-ce que je le crois tel quel? Sans y ajouter, sans y enlever. Donc, c'est quoi la victoire dans ce combat de la foi? C'est une victoire qui se remporte avant même qu'aucune âme ne soit présentée. C'est croire que Dieu a déjà remporté la victoire, c'est croire que Dieu, pour lui, c'est tout réglé. Et c'est pour ça que c'est si important ici. Dieu ici, ce qu'il révèle, c'est pour lui, là, Jéricho, puis toute la terre promise, là, c'était déjà réglé. Il l'avait dit avant, là, il confirme par sa présence, puis on le voit, qu'est-ce qu'on voit? Son épée nue à la main, c'est lui qui allait combattre. OK? C'est tellement important, ce moment-là. Et quelle est la réponse de Josué à une telle manifestation ici de l'ange de l'Éternel, qui est une préincarnation de Jésus-Christ? Ça nous dit qu'il est, au début du verset 14, ça dit, bon, une fois qu'il dit « Je suis le chef de l'armée de l'Éternel, j'arrive maintenant », Josué tomba le visage contre terre et adora. Ça, c'est là que commence la victoire de la foi, ça commence dans l'adoration. Pourquoi? Parce que l'adoration, c'est la réponse à la révélation de Dieu. Dieu se révèle à nous tel qu'il est, puis l'adoration, t'as rien à dire, t'as rien à rajouter, c'est suffisant. C'est ça l'adoration, dire « Dieu, toi, c'est plus que ce que j'ai besoin ». Ça, c'est la victoire de la foi, c'est la réponse à ce que Dieu nous révèle de lui-même. Puis quand on a ça, disent, ben, qu'est-ce que j'ai besoin de plus? Un pareil Dieu. Qu'est-ce que j'ai à m'en faire? Comprenez-vous? L'adoration. C'est là que ça commence. Tout commence. La victoire de la foi commence dans l'adoration. Et ici, Dieu s'est révélé à Josué comme celui qui combat pour eux. Et il dit, j'arrive maintenant. Mes amis, si lui arrive, toutes les autres partent. Puis il n'y a pas un mur qui va être trop fort pour l'arrêter. Et Josué a répondu au fait que celui qui se nomme le chef de l'armée de l'Éternel, l'ange de l'Éternel, est venu pour combattre. Tout ce dont Josué avait besoin, c'était simplement d'y faire confiance. Pour ça qu'il est tombé en adoration, en signe de cette confiance. Dieu a révélé qui il était et ça montrait qu'il était capable de faire ce qu'il avait dit qu'il allait faire. Et donc, la foi s'est reposée, a fait confiance à ce que Dieu a révélé. C'est pour ça que l'adoration dans notre église, dans nos églises, c'est tellement important. Pourquoi? Parce que c'est elle dont on a besoin si on veut le voir combattre. Vous savez, Dieu n'a pas besoin de notre force, Dieu n'a pas besoin de nos bonnes intentions, Dieu a besoin de notre adoration. Il a besoin qu'on tombe devant lui et dire, Dieu, c'est toi qui combats, c'est toi, juste toi, c'est assez. Dieu a besoin, quand on adore, on reconnaît ça. Notre cœur se courbe devant lui, on tombe devant lui et on dit, Dieu, toi, t'es assez. Toi, ça fait toute la différence. C'est un abandon total à Dieu, une confiance en lui de façon exclusive. C'est pour ça que c'est tellement important que ça a préséance dans nos églises, l'adoration. Pourquoi? Parce que c'est le fait de délaisser toutes nos ressources humaines et la chair. C'est confesser notre impotence et simplement regarder à Dieu. Regarder à Dieu, le chef et le consommateur de notre foi. En fait, écoutez bien, l'adoration, c'est pas juste mettre Dieu en premier. L'adoration, c'est faire de Dieu notre tout. De dire, t'as Dieu, t'as tout ce dont t'as besoin. C'est ça l'adoration, c'est que Dieu prend absolument toute la... Il n'est pas juste en premier, il est deuxième, troisième, en avant, en arrière. veut dire Dieu et Dieu seul. Tant que notre Église ne commence pas à genoux humblement dans l'adoration et ne reconnaît pas que nous sommes rien et que Dieu est tout, on ne pourra jamais avoir la victoire. C'est pour ça que la victoire de la foi commence dans l'adoration. La face contre terre à adorer ce Dieu qui mérite toute notre adoration. Et cette foi-là, c'est la semence de la vie qui engouffre, qui étouffe les épines de l'incrédulité puis de l'orgueil qui voudraient essayer de nous dérouter, de nous arrêter, de nous faire regarder à gauche ou à droite. La puissance expulsante de la vie, la foi vivante est plus forte que le doute, est plus forte que l'incrédulité, que l'orgueil. Et donc, c'est pour ça que c'est victorieux. Deuxième chose que j'aimerais qu'on regarde sur cette voie victorieuse, non seulement elle adore, mais elle laisse Dieu se manifester. Et on a ça dans les versets 1 à 5 du chapitre 6. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Autrement dit, il était prêt pour le siège, puis là, il ne voulait vraiment pas les laisser rentrer. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, « Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. » Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville, tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera des grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi. La foi victorieuse laisse Dieu se manifester. Vous savez, on parle souvent, notre témoignage est important. Et je comprends l'idée, OK? Puis, en tant que chrétien, on dit, notre témoignage est important. C'est-à-dire, on ne veut pas s'attaquer au nom du Seigneur par une conduite qui n'est pas digne de son nom. Je comprends ça. Mais en même temps, c'est oui, il peut avoir quelque chose. En 2020-2021, je vois qu'il peut y avoir quelque chose d'erroné à cette expression. Et je vous explique pourquoi. Pensez-y, là. Avec une pareille stratégie militaire, là, OK? Vous avez vu, là? Autrement dit, là, vous allez conquérir la ville juste en tournant autour de la ville. Imaginez-vous les soldats de Jéricho qui étaient autour, là. Quel témoignage que ça donnait aux enfants d'Israël. C'était ridicule, c'était pitoyable. Je veux dire, il devait avoir pitié de dire, c'est qui ces fous-là qui sont juste... Pensez-y, là. Le témoignage, c'était, aux yeux du monde, c'était le dédain puis le mépris. C'est quoi cette stratégie? C'est qui ces clowns-là qui tournent autour de notre ville? Non, mais c'était l'opprobre. C'était l'opprobre de Christ. D'une façon peut-être qu'on n'y a jamais pensé. Mais c'était ça le témoignage. Avez-vous déjà pensé à votre témoignage de cette façon-là? OK. Toute l'idée ici, probablement c'est l'idée de Dieu, là. C'est pas Josué qui est arrivé avec ce plan-là. Mais toute l'idée, c'est que Dieu voulait que les choses soient ainsi pour se manifester comme étant celui qui délivre. C'était évident qu'Israël n'avait rien à voir. Il avait l'air d'une gang de guignols qui tournaient autour d'une ville. Je veux dire, c'était évident qu'eux autres, ils n'avaient rien fait pour ça, là. Voyez-vous que c'était le point? C'était ça, le témoignage? Le témoignage faisait d'eux des ridicules, mais faisait de Dieu le Dieu incomparable. Est-ce qu'on est prêt à subir le ridicule pour que notre Dieu soit montré comme incomparable? C'est ça notre témoignage. Je veux dire, on n'est pas obligé d'être ridicule, mais si Dieu nous demande quelque chose que le monde va mépriser, ouais. Est-ce qu'on est prêt à le faire parce que c'est Dieu qui le dit, puis en autant qu'il y ait la gloire, puis en autant que lui soit montré comme celui qui se manifeste comme étant le seul qui est capable de faire ce qu'il fait? C'était ça le point ici. Puis Josué, il a accepté ça, là, par la foi. C'est ça toute l'idée en arrière de la stratégie ici. Dieu avait son plan pour remporter sa victoire à sa façon. C'était tout de Dieu, ça commençait avec lui, ça continuait avec lui, puis ça finissait avec lui. Tout ce que Josué et Israël avaient à faire, c'était lui faire confiance. Sans regimber. Voyez-vous comment les méthodes et les plans de Dieu sont un remède, un antidote à l'orgueil et l'incrédulité? Je veux dire, il ne va pas avoir grand place à l'orgueil pour la gang. J'ai déjà appelé guignol puis clown, là. C'est pas très gentil, là. Je ne veux pas être irrévérencieux en disant ça, mais c'est ce que le monde devait dire. Je veux dire, il n'y avait plus grand place à l'orgueil puis à l'incrédulité. Là, c'est Dieu, il faut que tu fasses quelque chose, notre confiance est en toi, parce que là, nous autres, là, on a tout perdu, notre crédibilité. C'est vrai, il avait tout perdu. Puis c'est exactement là que Dieu voulait les amener. Parce que Dieu voulait que lui ait la crédibilité. Pensez-y, Dieu est en train de détruire l'orgueil et l'incrédulité dans le cœur même de son peuple. Il est contraigné à s'humilier puis à se soumettre, à lui faire confiance. Wow! C'est ça, la victoire de la foi qui laisse Dieu se manifester. Puis qui se soucie de son témoignage. Maintenant, pensez à ça. Comme je l'ai dit, on entend souvent ça, « Ah, c'est important notre témoignage. » Juste vous amener cette réflexion-là. On dit « Ah, notre témoignage », mais pensez à ça. Quand la plupart du temps on entend ça, c'est important notre témoignage dans le contexte de 2020-2021. Souvent, ce que les chrétiens vont faire, il n'y a absolument rien de différent de ce que le monde fait. C'est l'imitation de ce que le monde va faire. Puis je veux dire, c'est faut qu'on fasse ce que Dieu en fasse, mais Dieu veut qu'on fasse, mais voici la question. Est-ce que quelqu'un, quelque part, s'est posé la question, « OK, mais c'est quoi le plan de Dieu? C'est quoi sa stratégie? » Parce que c'est ça qui importe, dans le fond. Comment exercer une foi qui va le manifester? Parce que le témoignage le plus important de notre Église, c'est pas le nôtre. En fait, ça... c'est celle-là qu'on veut pas. Le témoignage le plus important de notre Église, c'est celui de Dieu. C'est que les gens voient qu'il y a un Dieu qui est vrai, qui est tout-puissant, puis que c'est lui qu'on adore. C'est ça que le monde a besoin de voir. Et la question qu'on doit se demander, Dieu, comment tu veux manifester ça? C'est ça le témoignage. Alors qu'on a réduit le concept de témoignage à ce que nous, on peut faire lui-même. On a enlevé tout le surnaturel de ça. Je ne suis pas en train de dire que ça veut dire qu'il faut qu'on fasse ci puis ça. Mais la question, Dieu, comment tu veux te manifester? C'est ça le témoignage. Ça m'amène au troisième point ce matin. Troisième caractéristique de la foi victorieuse. Non seulement elle adore, non seulement elle laisse Dieu se manifester, mais elle se confie en Dieu. Regardez simplement les versets 6 et 7 ici. Il y a eu toutes les instructions. Dieu il a dit quoi faire. Puis ça dit, Josué, fils de Nun, appela les sacrificateurs et leur dit, portez l'arche de l'Alliance. Et que sept sacrificateurs portent sept trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel, il dit au peuple, marchez, faites le tour de la ville et que les hommes armés passent devant l'arche de l'Éternel. Autrement dit, il a fait ce que Dieu a demandé de faire. L'obéissance de la foi. Il a simplement fait confiance à Dieu. Il a fait confiance que si Dieu le demandait, Dieu pouvait faire ce que lui voulait faire avec ça. Et c'est là... la victoire, à ce moment-là, la victoire était déjà remportée. La question des murs, c'était secondaire. Là, le peuple de Dieu faisait confiance à Dieu pour marcher à la façon de Dieu. Ils ont remporté la victoire de la foi. À ce moment-là, il a écouté, il a eu des instructions, puis là, il a agi selon ça. Là, il y avait la victoire. Parce que oui, il avait de l'air... il était ridiculisé aux yeux du monde, mais sa foi n'était pas dans ce qu'il faisait, la foi était dans ce que Dieu allait faire. Pour ça, je dis, la victoire était déjà remportée à ce moment-là. La victoire dans le cœur de Josué puis du peuple était remportée. Wow! Donc, c'est pas les murs qui sont tombés, c'est pas là que la victoire... Ça, c'est le show, ça. Mais au niveau de la foi, la victoire s'est remportée avant. Oh, que Dieu nous fasse retrouver ce trésor de cette vérité. Que Dieu nous enseigne à s'attendre à lui, au lieu de courir à gauche, à droite, de regarder d'un bord puis de l'autre, d'essayer de faire ci, d'essayer de faire ça, puis qu'il nous enseigne à sortir, écoutez bien, de cette pensée qui dit, on parlait de témoignage tantôt, que Dieu nous enseigne à sortir de regarder ce qu'on a fait, puis qu'il nous fasse plutôt penser, écoutez, je vous sors Marc 5, 19. Je ne sais pas s'il y en a qui le connaissent par cœur, celle-là. Voyons. OK. Jésus ne leur permit pas. Bon, il dit, va. Ici, après avoir fait une guérison miraculeuse, il dit, va dans ta maison vers les tiens et raconte-leur ce que le Seigneur t'a fait. Qu'on pense de regarder qu'est-ce qu'on peut faire, puis qu'on puisse avoir ce désir. Regardez ce que le Seigneur a fait. Jésus, quand il a guéri, il a fait le miracle, c'est parce qu'il voulait que cette personne-là raconte ce que Dieu avait fait. Puis c'est ce que Dieu veut faire avec nous autres. Qu'on se confie en lui pour qu'on puisse dire, regardez ce que Dieu a fait. Quel grand Dieu on a. Quel Dieu incomparable. Mes amis, c'est la seule chose qui compte. Comme Église, si on a un témoignage, on est encore ici, c'est ça. On veut raconter ce que l'Éternel a fait. C'est ça le témoignage qui attire le monde à lui. D'ailleurs, c'est pas ce qu'on dit quand le Fils de l'homme va être élevé, c'est ce que Dieu a fait. C'est la croix, ça. C'est ça qu'on veut aussi dans notre vie quotidienne, dans notre vie d'Église, raconter ce que Dieu a fait. Et là, mes amis, on va faire un petit éditorial. Je pense qu'on a formé une génération entière de prédicateurs, de serviteurs, de chrétiens, businessmen, qui sont capables d'organiser le royaume de Dieu de façon efficace, avec quoi faire, comment faire, un livre sur ci, un livre sur ça, mais on a laissé totalement les gens dans l'ignorance de ce que Dieu pouvait faire. Parce que notre confiance a été dans l'homme, et non pas dans le Dieu qui peut faire des choses infiniment au-delà de tout ce qu'on demande et ce qu'on pense. On a essayé d'enrôler les hommes dans des programmes de choses à faire pour Dieu. Et ainsi, on croit qu'on a trouvé la façon d'attirer les hommes au Seigneur. « Hey, regarde ce programme-là, ça marche. » Puis je dis pas que les gens qui... Je veux dire, ça veut pas dire que les motifs sont mauvais, mais on a opté pour un évangile de promotion au lieu d'un évangile de révélation. On a opté pour un évangile de promotion, où est-ce qu'on fait la promotion de quelque chose, au lieu d'un évangile de révélation. Dieu se révèle dans l'évangile. L'évangile, c'est la révélation de la gloire de Dieu sur la face de Christ. C'est la révélation de la justice de Dieu. Ça, c'est l'évangile authentique. C'est tout par rapport à Dieu. On a excellé dans les façons de parler de nous, mais on a oublié de comment parler de Dieu. On a besoin de prédicateurs, d'hommes de Dieu qui exaltent, qui proclament le Dieu Tout-Puissant, Saint, Juste, Glorieux, pour faire taire la voix de ses promoteurs, puis qu'on entende ainsi par l'Éternel. C'est de ça qu'on a besoin, mes amis, plus que jamais. Je pense que Dieu est en train de nous sortir de ce marasme, de ce bourbier, de ce piège. Laissons-le faire, mes amis. Dieu révèle les secrets. Dieu révèle ses péchés d'orgueil et d'incrédulité qui l'ont empêché de travailler pendant si longtemps. Faisons-lui confiance qu'il est capable de continuer ce qu'il a commencé. Arrêtons de nous laisser distraire, nous détourner par des méthodes, des plans humains qui mènent à rien. Et surtout, un autre danger, faisons attention. On est en train de perdre des choses, on perd des libertés. Mais qu'on voit qu'on est en route vers la terre promise, qu'on ne résiste pas à la délivrance de Dieu parce qu'on veut les cocombes et de l'ail qui étaient en Égypte. Dieu nous amène par en avant, mes amis. Non, mais c'est vrai, on a des cocombes et de l'ail qu'on peut regretter, que c'est plus comme avant. Peut-être que ça ne va jamais revenir comme avant. Mais c'est pas ça l'important. L'important, c'est que Dieu, où est-ce qu'il nous amène? Puis, c'est qui le Dieu qui nous amène? Il va bien nous amener où ce qu'il veut. Je l'ai souligné. En 2020-2021, on n'a pas eu les choses comme on voulait, n'est-ce pas? Je pense pas qu'il y a quelqu'un qui avait fait un plan pour ce qu'on a vécu. Mais c'était le plan de Dieu, n'est-ce pas? Amen. Notre Dieu est souverain?
Oui.
Ah, Satan agit, puis je veux dire, c'est clair. Mais il agit avec une laisse. Je veux dire, il fait ce que Dieu lui permet de faire, comme avec Job. Mais Dieu révèle en ce moment ce qui est dans notre cœur, la folie de l'orgueil et de l'incrédulité qui est en train de nous détruire. Et ça, c'est bien plus. Il faut surtout voir là-dedans que c'est la façon avec laquelle il décide de travailler, par laquelle il décide de travailler puis de se manifester lui. C'est ça qui est précieux là-dedans. La seule chose dont on a besoin de faire en tant que peuple de Dieu, qu'enfant de Dieu, c'est d'y faire confiance. Qui est capable, avec ce qu'on vit en ce moment, de faire des choses grandes et cachées qu'on ne connaît pas. C'est là notre combat. C'est ça le combat de notre foi pour nous en ce moment avec ce que Dieu fait dans les circonstances dans lesquelles il nous a mis d'y faire confiance. Et ça, mes amis, ça commence avec l'adoration. Ça commence la face contre terre en voyant qu'on n'a absolument rien, on n'a pas de sagesse, on n'a pas de puissance, on n'a rien. Mais on a un grand Dieu dans lequel, devant lequel on est complètement pâmé, exalté, puis on dit « Wow! Si j'ai Dieu, c'est assez. » Puis Dieu, mon plus grand désir, c'est ce que tu te manifestes, que toi tu travailles. C'est ton témoignage qui est important. Donc à cause de ça, je me confie en toi. On parle de foi, hein? Connaissez le grand chapitre de la foi dans le livre d'Hébreux? On voit ce qu'on a vu là ici dans Josué. On le voit dans un seul verset. Dans Hébreux 11:30, ça dit « C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent après qu'on eut fait le tour pendant 7 jours. » Je vais juste souligner ce point-là en terminant. C'est dit « C'est par la foi que les murs sont tombés », disant la victoire de la foi, ok, le problème des murs, c'était pas un problème. Dieu s'adressait à la foi de son peuple, mais ça dit « après qu'il ait fait le tour ». Autrement dit, la rémunération de la foi vient après qu'on ait fait confiance à Dieu. Après que, oui, il ait fait des fous d'eux même devant le monde. Dieu a fait des fous d'eux devant tout le monde. Puis qu'est-ce que les gens disaient? Oh, le peuple que Dieu a sorti d'Égypte, puis qui a fait tomber les murs de Jéricho, puis qui a conquis les géants de la terre promise. Tout ça, c'était vraiment parce qu'ils ont fait confiance à Dieu. La grandeur de Dieu s'est manifestée après qu'il ait fait confiance à Dieu. Et ça, c'est Josué. On dit que Gédéon aussi, en fait, dans le même chapitre, il dit, il nous manque de temps. C'est de valeur, j'aurais aimé ça qu'il en parle un peu plus, mais de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes. Mais savez-vous qu'est-ce qu'on apprend dans Gédéon? Dans Juge, au sujet de Gédéon? La Bible nous dit que l'Éternel dit à Gédéon, « Le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que le livre m'a dit entre tes mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. » Il pourrait tirer gloire contre moi. Savez-vous, Dieu n'a pas besoin de 32 000 soldats. Il a seulement besoin d'une personne qui lui fait confiance, que lui peut faire une délivrance qui surpasse toute notre compréhension. Puis il peut susciter 300 personnes, 300 soldats qui se confient en lui, qui marchent dans la victoire de la foi et qui répondent à cette question, est-ce que Dieu peut vraiment faire ce que dit qu'il a fait? Qui répondent avec un retentissant, oui, c'est évident. Si Dieu le dit, c'est réglé. C'est ça la victoire de la foi. Si Dieu le dit, c'est réglé. Et donc, je pose la question ce matin. Est-ce que tu es prêt à être un Josué, un Gédéon, qui a rien, mais qui adore, qui laisse Dieu se manifester puis qui fait totalement confiance? Et vous savez, je pense que c'est un message vraiment pas fête des mères, ok? Il y a zéro, je suis pas politically correct, d'habitude tu fais un petit message, fête des mères, doudou, c'est... Mais c'est pas comme ça que Dieu m'a dirigé, puis savez-vous quoi? Je suis très reconnaissant pour les mères, puis j'ai donné une carte des fêtes des mères à maman, j'ai parlé, j'ai dit que je l'aimais, puis que... Mais pensez-y, on a besoin de mères qui comprennent ça. On a besoin de pères qui vivent ça aussi. Pensez-y, là, même si c'est pas le petit message tout beau puis tout cute, qu'est-ce qu'on a besoin, dans le fond? On a besoin exactement de ça. Mais est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est prêt à subir le ridicule? Parce que notre confiance est en Dieu. Est-ce que je suis prêt à suivre un Gédéon, à suivre un Josué, et dire, c'est une gang de fous, eux autres, qu'est-ce qu'ils nous demandent de faire ça? Le pasteur, il est rendu fou. Non, mais pensez-y. Mais je vais être prêt si je suis dans cette adoration, dans cette confiance en Dieu qui ne désire que le voir se manifester. Et ma confiance est dans un Dieu dont la grâce est infinie. Alors, je termine avec cet appel. Si vous êtes un enfant de Dieu, la victoire de la foi. C'est pas avec ce qui arrive plus tard, puis que Dieu va faire. La victoire de la foi, c'est maintenant. Est-ce que je suis prêt à faire confiance à ce Dieu-là? Est-ce que je rends les armes? Est-ce que je le laisse lui combattre? Puis une autre question. J'ai demandé tantôt, es-tu prêt? Es-tu prêt pour l'éternité? Le Seigneur t'a-t-il racheté? Christ a tout fait sur la croix. Et il y a une façon d'être sauvé, d'être réconcilié avec Dieu. C'est par la foi, seul, en Jésus, seul. Et il n'y a rien à rajouter. Ce n'est pas une œuvre, c'est se confier dans celui qui a fait l'œuvre ultime, qui est mort sur la croix du calvaire et qui est ressuscité des morts. Et la question ce matin, c'est est-ce que ta confiance est en lui et lui seul ou en quelque soit d'autre? C'est la différence pour ton âme éternelle, ta destinée éternelle. Et donc, alors qu'on va s'apprêter maintenant à prier, je veux simplement amener à ce point tellement important-là. Pour tout le monde ici qui écoute, sauvé ou non sauvé, il n'y a pas d'autre chose qui sont appropriées que de tomber devant ce Dieu, l'adorer, et de dire « Dieu, manifeste-toi ». Si vous n'êtes pas sauvé, il faut que Dieu se manifeste son salut, vous délivre, sauve votre âme. Si vous êtes un enfant de Dieu, il faut que Dieu manifeste sa grâce. Comme, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'en ai assez d'essayer de faire la job que juste Dieu peut faire. Fait que je tombe devant lui et je dis « Dieu, toi, manifeste-toi ». C'est là ma confiance. Je sais que c'est ça que Dieu honore. Je sais que c'est ça que Dieu veut de ses enfants. Et si vous êtes ici, vous n'êtes pas sauvé, ce qu'il veut, c'est votre cœur, votre confiance pour vous sauver, vous donner la vie éternelle. Donc venons à lui maintenant, tel qu'on est, en réponse à ce qu'il nous a dit ce matin. Merci Seigneur. Merci que tu es grand, infini, au point qu'on ne peut même pas comprendre. On est trop petit, on est limité, mais merci que tu te révèles à nous. Merci que tu révèles aussi la réalité de nos cœurs. Tu révèles les secrets des cœurs. Oh Seigneur, tu t'es servi de cette année pour révéler notre orgueil et notre incrédulité. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et tu te sers maintenant même des circonstances pour révéler ton Fils au cœur de ceux qui ne te connaissent pas. Oh Seigneur, je veux invoquer ton nom pour que cette personne qui écoute et qui entend l'appel de la croix réponde, cède, accepte le sacrifice qui a été fait une fois pour toutes. Et pour nous, tes enfants, Seigneur, merci. Merci de nous amener à ce point-là. Merci, Seigneur, que tu nous délivre de nous-mêmes, de notre orgueil et de notre incrédulité tellement tenace. Merci que tu nous humilies, que tu nous amènes à nous confier en toi de tout cœur. Seigneur, sois avec ton peuple maintenant qui veut répondre par la foi à ce que tu nous as révélé sur toi ce matin. On prie au nom de Jésus. Amen.
Amen.
Amen. Vous pouvez prier.